Chapitre 5 De la solitude. Pendant cette période de querelle familiale, Catherine avait construit dans son âme une cellule secrète, d'où personne ne pouvait la chasser, et qu'elle résolut de ne jamais quitter, quelles que fussent ses occupations extérieures. C'était ce refuge secret que connaissait aussi François d'Assise, et dont il avait dit « Notre frère le corps est une cellule, et l'âme est l'ermite qui y demeure ». Mais bientôt, Catherine reçut la promesse de posséder également une vraie cellule extérieure. Dans la maison de Giacomo Benincasa, juste au-dessous de la cuisine, se trouvait une petite chambre ouvrant sur le vicolo del tiratoio. Catherine, s'apercevant que cette pièce était abandonnée, y installa son ermitage. On voit encore cette cellule de nos jours. Le plancher est exactement au niveau de la ruelle qui passe derrière la maison. La fenêtre est actuellement murée, mais une croix taillée dans la pierre indique aux passants que c'est là la chambre sanctifiée par Catherine. Cette chambre était fort petite, 5 mètres de long sur 3 mètres de large, et carrelée de grandes briques rouges. Il n'y avait guère place pour des meubles. Un coffre où elle serrait ses affaires et un banc, c'était tout. Le banc, dans la journée, lui servait de table. Et la nuit, elle s'étendait dessus tout habillée, avec une bûche en guise d'oreiller, ou bien reposait sa tête sur les marches de griques qui servaient à atteindre la fenêtre haut placée. La porte et les volets étant le plus souvent clos, la petite chambre n'était alors éclairée que par la lampe qui brûlait devant le crucifix suspendu au mur. Là, dans l'obscurité et la solitude, Catherine pouvait réellement reproduire les pénitences des anciens solitaires. Depuis longtemps déjà, elle avait cessé de manger de la viande. Elle se refusait à présent toute nourriture tant soit peu délicate, et plus tard, elle parvint à vivre uniquement de pain et d'herbes crues. À dater de sa 20e année, elle se contenta de prendre de la salade sans pain, et avec le temps, se priva même de ce maigre aliment. Sa constitution se transforma à tel point, sous l'influence de ce jeûne rigoureux, que, quelques années après, elle ne pouvait plus supporter aucune nourriture. Elle se mortifiait encore d'autres manières en portant un cilice, qu'elle échangea ensuite contre une mince chaîne de fer serrée autour de sa taille. Caffarini a vu lui-même une des disciplines avec lesquelles elle se flagellait. Un crochet de fer y était fixé et elle était noire de sang desséché. Il a vu également la chaîne garnie de petites croix qu'elle portait autour du corps. De même que sa nourriture, elle restreignit de plus en plus son sommeil et finit par dormir à peine une demi-heure en 2 jours. Ce fut le plus rude effort que j'ai jamais fait sur moi-même, confessa-t-elle une fois à Raymond de Capoue. Par tempérament, Catherine jouissait d'ailleurs d'une santé florissante et avait toute l'exubérance d'une jeune Italienne. Lapa racontait volontiers que dans sa jeunesse, sa fille avait monté un sac de blé de la rue jusqu'au grenier, or cela représentait toute la charge d'un mulet, mais elle était alors 2 fois plus robuste qu'à présent. Les dominicains ont toujours eu une prédilection marquée pour les pénitences corporelles. Saint François avait interdit à ses frères les macérations extérieures et au chapitre général de la portioncule fit réunir tous les cilices et toutes les disciplines pour les brûler. Tandis qu'au contraire, la vie d'un Henri Suzo, par exemple, depuis sa 8e année jusqu'à la 40e, n'est qu'une succession de tortures qu'il s'infligea lui-même jusqu'à ce que son corps, étant entièrement épuisé, Il se trouva dans l'alternative de cesser ses rigueurs ou de mourir. Alors Dieu lui fit comprendre que tout ceci n'était qu'une préparation, que l'anéantissement du vieil homme. Dans sa chambre solitaire à Sienne, Catherine suivait la même voie de renoncement et d'effort que le dominicain allemand dans son couvent de Constance. Elle aussi aurait pu, dans une autobiographie, écrire des pages terribles et belles sur la mortification de la chair et sur la destruction douloureuse du moi. Mais en dépit de tout cela, Catherine n'avait pas encore atteint le comble de ses vœux, porter l'habit noir et blanc. Ses parents lui avaient permis de mener une vie de prière et de pénitence entre les quatre murs de la maison, mais ils ne se soucièrent guère d'aller plus avant dans leur complaisance. Au fond, Mona Lapa n'avait nullement abandonné l'espoir de guérir sa fille de ses bizarreries. Pourquoi, par exemple, dormir sur une dure planche plutôt que dans un bon lit? Et parfois, Lapa se relevait pour entraîner sa fille chez elle et l'obligeait à partager sa couche comme lorsqu'elle était enfant. Mais quand elle s'éveillait le matin, le lit était vide à côté d'elle. Catherine s'était retirée sans bruit. Ou bien, si elle s'était résignée à rester, c'est qu'elle avait trouvé moyen de glisser secrètement une planche ou quelque autre morceau de bois sous les draps. En ce cas, elle s'étendait dessus et priait au lieu de dormir. En soupirant, Lapa finit par céder à son enfant dénaturé. Mais elle témoigna de son indignation par plus d'un gémissement lorsqu'un jour, ayant pénétré chez Catherine, elle l'a vu se flageller de telle sorte que le sang jaillissait. La malheureuse mère se mit alors à pleurer si fort que tout le voisinage l'entendit. Elle poussait des cris sauvages. « Ma fille, ma fille, veux-tu donc te tuer? Mais quelle est la puissance qui me ravit mon enfant ?» Puis, fait observer Raymond avec un froid mépris, elle se livrait à toutes sortes d'actes étranges, comme de s'égratigner le visage ou de s'arracher les cheveux. Raymond, le moine sévère, pouvait en parler à son aise. Il ignorait ce qu'est un cœur de mère. Simplicissima Lapa, tu aimais tant ta petite Catherine, l'enfant de ton cœur, la dernière, celle que tu avais nourrie toi-même, le rayon de soleil de ton foyer, la gracieuse Éphrosine, et tu ne comprenais pas pourquoi elle se maltraitait ainsi, et tu sanglotais et t'arrachais les cheveux en voyant couler son sang, ton sang, et le sang de Giacomo, qui ruisselait des veines de Catherine, et donc chaque précieuse goutte était une goutte de jeunesse, une goutte de vie, une goutte de bonheur qui, une fois répandue, ne pourrait jamais être reconquise. Ô naïve et sensible Lapa, nous avons pitié de toi, nous te comprenons, nous t'aimons pour ton grand cœur impétueux, ce cœur que tu as transmis à ta fille et qui la faisait si vaillante et si forte. Ni par la violence, ni par la douceur, Lapa n'avait pu avoir raison de Catherine. Elle essaya d'un troisième moyen, des distractions, et l'emmena à Vignonne, station thermale très fréquentée, située dans la montagne au sud de Sienne, au bord du fleuve Orcia. D'après les écrits de Simone di Giacomo Tondi, datant de 1334, les sources chaudes de Vignonne contiennent du fer, de l'aluminium, du cuivre, un peu d'or et un peu d'argent. Elles avaient à cette époque la réputation de guérir très spécialement les maladies de foie, les maladies d'estomac et toutes sortes d'affections nerveuses. Ces bains, dont n'usent aujourd'hui que les paysans des environs, étaient alors très en vogue. On y trouvait de nombreuses hôtelleries, et une église s'élevait au centre de la place publique. C'est là que, sous la surveillance maternelle, Catherine devait soigner son corps jusqu'ici maltraité et en venir à des idées plus raisonnables. Elle s'y prêta de bonne grâce, mais supplia qu'on lui permît de se baigner seule, même sans sa mère. Et lorsqu'elle en eut obtenu l'autorisation, au lieu de profiter de l'eau tempérée du bassin, elle prit l'habitude de se placer sous le jet brûlant, au risque de s'échauder. Pressée de rendre compte de sa conduite, elle répondit « Je pensais aux tourments de l'enfer et du purgatoire, et je priais mon Créateur de m'épargner les supplices éternels et d'accepter en échange les souffrances que j'endurais. » La part rentra donc à sienne, ayant perdu sa cause, et Catherine dévoila pour la première fois à sa mère son intention de devenir Mantellata. Elle la tourmenta si bien que celle-ci promit d'aller trouver la prieure des Mantellata et de lui soumettre ce projet. Cependant, Lapa revint fort satisfaite de cette visite. La prieure lui avait répondu que les Mantellata ne recevaient que des veuves et qu'une jeune fille de l'âge de Catherine ne pouvait être admise parmi elles. Sur ces entrefaites, Catherine fut atteinte de la varicelle, particulièrement grave chez les adultes, et Lapa, désolée, s'installa jour et nuit au chevet de son enfant malade. Mais comme Catherine refusait toutes les douceurs que lui apportait sa mère, celle-ci finit par s'écrier avec désespoir « Hélas, ne puis-je donc rien pour toi ?» Ce à quoi Catherine répondit avec finesse « Si tu veux que je guérisse, aide-moi à devenir Mantellata. Autrement, je suis persuadée que Saint-Dominique fera en sorte que vous ne puissiez me posséder ni sous cet habit, ni sans aucun autre. » Lapa retourna alors chez les sœurs et, le cœur plein de détresse, plaida la cause de sa fille. « Si encore elle n'était pas trop jolie, » insinua la prieure. « Venez en juger vous-même, » répondit Lapa, qui elle aussi savait être diplomate. La prieure la suivit et ne trouva pas que Catherine, dont le visage était couvert de boutons, fut d'une extrême beauté. En revanche, elle fut impressionnée de sa piété incontestable. Les autres sœurs furent consultées. Et il est possible qu'Agnès Benincasa ait pesé sur la décision en faveur de sa nièce. Quoi qu'il en soit, Catherine reçut enfin l'heureuse nouvelle, si longtemps attendue, qu'elle serait admise au nombre des Mantellata. La joie qu'elle en éprouva fut si vive que la maladie déclina rapidement et que l'on put fixer le jour de sa réception. Peu avant ce jour, si impatiemment désiré, Catherine eut à soutenir un rude combat. Étant guérie, elle avait échappé aux bons soins de Lapa et repris possession de son austère cellule. Elle y était un soir en prière devant son crucifix. C'était à la tombée de la nuit, à l'heure où l'âme est pleine de désirs qui l'étonnent elle-même, désirs qui ne risquent pas au soleil, désirs qui s'évanouissent dès que s'allument les lampes, mais qui prennent leur essor aux confins du jour et de la nuit, tels de sombres oiseaux crépusculaires, souvenirs mélancoliques, rêves dangereux. Ce soir-là, dans sa petite cellule enténébrée, Catherine reçut la visite de ses hôtes troublants. Entendit-elle la voix de sa défunte sœur Bonaventura? Se rappela-t-elle le bonheur de la jeune mère entourée de ses enfants joyeux? Ou bien fût-ce le souvenir d'une fête? Revit-elle les étendards gracieusement agités par les jeunes et sveltes alfieri? Revit-elle la foule en habits de gala rassemblée au campo sous le soleil de juillet et les estrades ornées de draperies rouges occupées par des dames élégamment vêtues? Toi aussi, Catherine, tu pourrais prendre place au milieu d'elle, murmurait une voix à son oreille. Pourquoi as-tu coupé tes beaux cheveux dorés? Pourquoi portes-tu un cilice sur ton corps délicat? Et pourquoi revêturas-tu dans quelques jours la grossière robe des sœurs? Vois, cet habit n'est-il pas bien plus beau? Et dans la lumière déclinante du soir, Catherine crut apercevoir devant elle Un jeune homme, svelte et beau comme un page de la Contrada del Olca, qui lui présentait un riche vêtement. Jamais elle n'avait rien vu de plus ravissant. C'était une robe de soie chatoyante, brodée d'or et chargée de perles et de pierres précieuses. Comme ensorcelée, Catherine jeta un regard sur la robe éblouissante et le beau jeune homme qui prenait son silence pour un consentement se préparait déjà à l'en revêtir. Alors, Catherine sembla s'éveiller d'un rêve. Elle comprit clairement ce qu'elle était sur le point de faire et d'un geste rapide repoussa le séducteur et son mirage. La vision extérieure disparut, mais la tentation intérieure persista. C'était comme si jusqu'à ce jour elle eût vécu sans avoir le sentiment des réalités de la vie. Elle avait suivi ses inclinations, uniquement préoccupée d'atteindre son but. Quel bien lui en revenait-il au moment où elle y parvenait? Lorsqu'elle s'était fiancée à Jésus dans son enfance, savait-elle déjà ce qu'elle préférait? N'avait-elle pas écouté uniquement le naïf désir de faire ce qu'enseignaient les prêtres, ce qu'ils disaient être agréable à Dieu, et ce que tant de pieuses femmes avaient fait avant elle? Elle avait maintenant l'impression que des voiles se déchiraient successivement devant ses yeux. Elle voyait tels qu'ils sont la vie et le bonheur des hommes, la vie et le bonheur des femmes, et se rendait compte qu'elle allait y renoncer pour toujours. Jamais au pied de l'autel, elle ne mettrait sa main dans la main d'un époux. Jamais elle ne quitterait l'église conduite par lui, en adressant à ses parents un grave et joyeux salut. Les torches nuptiales ne s'allumeraient jamais pour elle, et jamais, lorsqu'elle serait devenue une vieille aux cheveux blancs, elle ne montrerait à ses petits-enfants émerveillés son ancien voile de noces aux fleurs brochées d'argent. Faisant appel à toute son énergie, Catherine s'arracha brusquement à la rêverie qui assaillait son cœur de femme. « Oh, toi, mon bien-aimé, mon unique époux !» s'écria-t-elle en tombant à genoux devant le crucifix. « Tu sais bien que je n'ai jamais désiré que toi seul. Viens aujourd'hui à mon secours, ô mon sauveur, fortifie-moi et soutiens-moi en cette heure difficile. » Le crucifié ne parut pas s'attendrir. Il resta silencieux, les yeux sans regard, mais on entendit comme le bruissement d'une robe de femme, d'or et de soie, qui frôlait le mur froid. Et devant Catherine apparut celle qui est bénie entre toutes les femmes, la patronne de Sienne, la Vierge Sainte et la Mère de Dieu, Madonna Maria. De même que le tentateur quelques instants auparavant, elle aussi portait sur son bras une robe resplendissante, brodée d'or et de perles, étincelante de pierres précieuses. « Cet habit, ô ma fille !» dit la mère de Jésus de sa voix douce et tendre, qui fait pleurer tous ceux qui l'entendent. « Cet habit, je l'ai tiré pour toi du cœur de mon fils. » Il était contenu dans la blessure de son côté, comme dans un écrin doré, et de mes propres mains je l'ai brodé. Alors Catherine, brûlante de désir et tremblante d'humilité, inclina la tête, et la Vierge la revêtit de la céleste tunique.